Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. J'ai failli appeler ce podcast soliloquer, qui est le verbe qui veut dire se parler seul. Et je pense que s'il y a un épisode qui se rapproche le plus de ce que je comptais faire, c'est celui-ci. Je pars en freestyle. Je n'ai rien prévu. J'ai des idées, mais j'avoue être perdu. Étant donné qu'on est sur du building public, quel est le meilleur moyen de vous donner l'état dans lequel je me sens que de parler sans être préparé? Donc, à vrai dire, je ne suis pas non plus non préparé parce que, évidemment, je me prends la tête sur les sujets défendus dans les podcasts avant de les commencer. Et j'ai ouvert mon agenda de la semaine pour essayer de le parcourir et de me dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Avis à ceux qui m'écoutent uniquement pour avoir des ressources et apprendre des choses. Ce n'est pas le meilleur épisode pour le faire parce que j'essaye pour une fois de partir en live. J'avoue que je viens de constater que je ne savais pas quoi dire et que je n'avais pas spécialement envie de le faire. Ça doit être très difficile d'écouter quelqu'un dire « je n'ai pas envie de vous parler », mais c'est plutôt « j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses ». En un an et demi, et j'avoue que j'en ai marre de parler de moi. C'est un petit peu la suite des épisodes précédents, et donc j'ai du mal à m'y retrouver là. J'ai adoré cette saison 4, mais que voulez-vous que je vous dise? J'ai vécu du stress, je pense que j'ai assez parlé de mon stress. J'ai vécu du repos cette semaine, j'ai assez parlé de mon repos, du bien que ça me faisait. Je pense qu'il est grand temps de se remettre en selle. Je pense que c'est assez important de devoir se remettre un petit coup de jus. Je pense que s'il peut y avoir un sujet autour du podcast du jour, c'est celui de se reposer sur ses lauriers de manière associée, avoir une baisse de régime qui est associée à... un début de réussite, on va dire. Je me suis déjà exprimé sur la réussite. Hein. Je pense pas du tout avoir réussi, mais évidemment, c'est toujours en regardant avant qu'on peut exprimer une réussite présente. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, en tout cas niveau financier, puis même moral. Et je crois que je traverse la période où j'ai du mal à avancer sans avoir de pression. Donc, je mets en place tout ce que j'ai appris ces dernières années, qui est mettre des deadlines, essayer de faire avec qui je suis, m'entourer. Petit coup de mou. J'avoue que j'ai été surpris cette semaine d'avoir beaucoup trop stressé pour une prestation, un focus group. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je m'étais dit que c'était l'opportunité de vous expliquer ce que je peux faire comme prestation. Au moins, ce sera un podcast pub et puis un podcast un peu vrac. Cette semaine, j'ai encore pu beaucoup me reposer, faire du sport et avancer sur l'organisation un peu générale de ce que je dois faire. Mais il serait temps de passer la seconde. Par rapport à la thèse, je me suis donné pour objectif, tiens, je vais le dire publiquement, c'était ma manière de manipuler à l'époque, je me suis donné pour objectif de soumettre un de mes articles le 14 mai 2025. Pour ce faire, je me suis mis un post-it au-dessus de mon PC avec cette date, objectif soumission, entre parenthèses, avec le sourire. Parce que on va essayer de se mettre des deadlines avec le sourire maintenant. Et donc, j'enregistre en fin du mois de mars, donc j'ai un mois et demi pour finir d'écrire et soumettre cet article. Et il va falloir que je me mette la pression parce que c'est difficile de maintenir une pression sur le côté thèse parce que c'est moi le moteur, là où en fait le côté entrepreneuriat m'a appris à ne plus spécialement être le moteur ou alors il y a un... Il y a, je sais pas, il y a une pression d'être payé, de devoir répondre aux objectifs rapidement, qui entraîne une motivation beaucoup plus autonome du côté business que du côté thèse. Et là, il va falloir que je m'y mette, hein, je sais quoi faire, mais ça y est, je suis prêt, j'ai mon projet de thèse, mais j'avoue avoir un petit peu du mal à démarrer. Donc, l'objectif de ces prochains moments, de ces prochaines semaines, surtout là des 10 prochains jours, ça va être de travailler sur cet article-là, qui est, je crois que je peux le dire, une scoping review, donc une espèce de méta-analyse qualitative faite pour faire le point sur la manière dont on mesure la confiance entre deux personnes. Je vous en ai déjà parlé, mais bon. Ne sachant pas le rythme et à quel point les personnes rattrapent les épisodes et les saisons, on va réexpliquer un petit peu. Donc, j'essaye de prendre toutes les mesures de la confiance entre deux personnes qui sont dans la littérature scientifique pour essayer de les organiser, c'est-à-dire essayer de comprendre les dates, les auteurs, qui se reposent sur qui, comment les échelles sont construites, etc. Et faire une analyse critique quand même des concepts. Des dimensions et de la manière dont les choses sont définies pour faire un gros point globalement sur comment la science mesure la confiance entre deux personnes quand ils souhaitent faire des questionnaires. Parce qu'on peut mesurer la confiance entre deux personnes avec ce qu'on appelle des trust games. Désolé, je ne vais pas faire celui qui utilise son accent anglais. Et puis de toute façon, il est pas top mon accent anglais. C'est-à-dire des jeux de confiance dans lesquels on met les gens dans des situations. Par exemple, le dilemme du prisonnier, où on dit, voilà, vous êtes deux prisonniers, si vous avouez tous les deux avoir fait le crime, vous avez 5 ans, si tous les deux vous dites que vous n'avez pas fait le crime, bah, vous avez tous les deux aucune année ou 1 an, et s'il y en a juste un des deux qui dit que l'autre a fait le crime, vous avez 2 ans, enfin voilà, essayez de mettre en place des choses. Pour mesurer des systèmes de coopération. Et justement, moi, pour l'instant, je me dirige plutôt vers une mesure de la manière dont on perçoit la personne pour voir si on lui fait confiance, plutôt que des jeux comme ça, est-ce que tu fais confiance, est-ce que tu coopères? Parce que justement, il y a des auteurs qui ont mis en avant le fait que c'était plutôt des mesures de la coopération que des mesures de la confiance. Et que donc, peut-être que la variable la plus précise pour mesurer si on fait confiance, c'est plutôt qu'est-ce que tu penses de la personne. En tout cas, ça fait partie de mon parti pris. Et donc, voilà, je travaille sur cet article-là. Où j'en suis précisément, c'est des recherches que j'ai faites depuis longtemps. Donc, en fait, on fait des mots, on cherche des mots-clés dans des bases de données pour définir quel type d'article on veut. Moi, globalement, je vais dire, je veux que dans le titre, il y ait un sujet autour de créer une mesure. Donc, je mets tous les synonymes possibles d'une mesure, une échelle, un instrument, des items, etc. Je veux que ça soit lié à la confiance. Donc moi, j'ai de la chance vu que le mot-clé le plus associé à la confiance, c'est confiance. On n'a pas beaucoup de synonymes. Alors que dans la science, il y a un gros travail de comprendre et chercher les synonymes dans les recherches scientifiques pour un même construit. Là, c'est trust, TRUST. Après, il y a aussi la fiabilité, trustworthiness. Mais globalement, si je mets trust et que je mets une petite astérisque pour... laisser le moteur de recherche me donner ce qui peut être complété après Trust, en fait, ça peut suffire pour trouver des articles sur la confiance. Pour préciser, pour ceux qui font pas de recherche avant, et sachez que c'est applicable à Google. Je suis pas sûr que ce soit un astérisque, mais il y a quelque chose d'équivalent sur Google. Si je veux chercher juste Trust, le mot confiance en anglais, dans un article, je vais juste mettre Trust. Par contre, si je veux par exemple que le mot soit conjugué, enfin pouvoir le trouver conjugué ou pouvoir le trouver plus long, je vais mettre trust astérix. Ça veut dire que je veux au moins qu'il y ait TRUST. Et si des mots commencent par TRUST et ont des lettres comme trusting, trusty, donc celui qui fait confiance, ou trustworthiness, la fiabilité, ça inclut tous ces termes-là. Donc c'est assez utile quand on fait des recherches parce que souvent, on se ferme à beaucoup d'artifices, des fois, de juste de langagière, de conjugaison pour faire des recherches. Et avec l'astérix, on peut inclure Enfin, quand je dis Astérix, c'est le signe fois, la petite étoile qui, moi, sur un Windows, est en dessous du U, bizarre. Voilà, en dessous du entrée, au-dessus du entrée, à droite. voilà. Donc, en gros, on fait une recherche assez large, on a des critères. Donc, moi, je veux des articles qui mesurent bien la confiance entre deux personnes, qui sont pas des mesures comportementales, qui sont pas déjà des méta-analyses, etc. Bref, on le décide. On a beaucoup d'articles, style 600. Sur les 600, on lit les titres et les résumés pour se dire, bon, ça a l'air de correspondre à mes critères de sélection. Sur ces 600, moi, il en a resté à peu près 150. Sur ces 150, là, on va les lire entièrement pour vraiment voir, parce que c'est là où on a des doutes, si ça correspond à nos articles, à nos critères de sélection. Et si les articles correspondent à nos critères de sélection, on les inclut dans notre analyse. Et moi, ma manière de faire la scoping review, c'est chaque article est inclus. Je vais voir, par exemple, l'auteur, la manière dont la confiance est définie, la manière dont la confiance est mesurée, le nombre d'items, etc. Donc là, c'est un petit peu propre à la question de recherche qu'on a. Et voilà, ça fait que j'ai un grand tableau avec autant de lignes que d'articles et autant de colonnes que de variables que je souhaite. Donc moi, j'en ai quand même 20 ou 30 colonnes. Ensuite, sur la base de ça, on écrit un article pour dire, bon, voilà comment s'organise et comment, qu'est-ce qu'on peut dire des mesures de la confiance dans la littérature. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait il y a déjà 2 ans. J'ai fait une relance de recherche en mai 2024, c'est-à-dire que j'ai remis exactement la même phrase de recherche. On appelle ça une phrase parce qu'en fait, ça finit par faire beaucoup de mots-clés qu'on associe avec des opérateurs. Je veux et que ce soit sur la confiance et qu'il y ait un sujet autour d'une échelle de mesure et voilà, tel critère, tel critère. Ça peut nous faire des phrases de recherche qui ressemblent à des équations. Voilà, on réapplique l'équation quelques années ou quelques temps après pour voir si on n'a pas des nouveaux articles. Et donc, j'ai fait ça en mai, qui m'a fait rajouter quelques articles. Et étant donné que ce projet a mis du temps, j'ai dû refaire ça également en 2025, donc là récemment. Ce qui fait qu'à chaque fois, on doit réactualiser, rechercher et refaire ce sujet de. On revoit plein d'articles, on fait une première passe sur la base des titres et des résumés, puis une deuxième passe sur la base du contenu en général. Et donc, j'en suis aujourd'hui à finaliser la recherche d'articles en 2025 pour finaliser cet article et que enfin ce soit une scoping review sur la mesure de la confiance entre deux personnes dans toutes les disciplines, enfin en tout cas à travers les disciplines que j'ai pu trouver à travers mes moteurs de recherche. Voilà, analyse critique et puis expliquer comment ils s'organisent. Quand je dis comment ils s'organisent, c'est il y en a X en médecine, il y en a X dans le business, dans la science des organisations, il y en a X qui ont été créés de telle année à telle année, etc. Voilà, essayer de comprendre un peu l'organisation de la littérature sur le sujet. Donc, l'article ressemble à ça. J'ai prévu de le sortir le 14 mai 2025 les prochaines étapes sont de devoir finaliser l'inclusion des articles, c'est-à-dire décider vraiment de ces nouveaux articles que j'ai trouvés entre mai 2024 et janvier 2025. Est-ce qu'il y a bien des articles qui correspondent à mes critères que je vais finir par rentrer dans les analyses, puis les analyser, et donc c'est-à-dire aller choper entre 20 et 30 infos par article. Il y a combien de participants, il y a combien de comment ils y sont pris pour faire les questions, d'où viennent les auteurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé. Faire les analyses et les statistiques. Bon, là, pour le coup, c'est très descriptif et c'est très une critique ensuite qualitative. Donc, les statistiques vont être très simples, hein. Ça va être des pourcentages globalement. C'est des statistiques descriptives, des moyennes, des pourcentages, des tendances. Il n'y a pas quelque chose de très complexe. Rédiger l'article. Rédiger l'article, c'est faire une intro, la méthode, les résultats et la discussion. Et aujourd'hui, j'ai une base d'intro qui est à revoir parce que j'ai la chance de pouvoir avoir les idées plus claires maintenant que j'ai rédigé un projet de thèse et donc de relire mon intro que j'avais écrit il y a longtemps et de me dire que j'ai la volonté d'expliquer trop de trucs dans cette intro qui sont pas nécessaires pour cet article. Et c'est un peu quelque chose de positif que je me rends compte. On m'avait dit que les jeunes chercheurs et les jeunes docteurs avaient tendance à vouloir expliquer trop de choses dans les articles, alors que en fait, les auteurs qui sont là depuis longtemps, bah, ils savent ce qui est su dans la littérature et ils n'ont pas besoin de dire de tout surdéfinir. Bon, des fois, je trouve que les choses sont pas assez définies, mais voilà. Moi, j'ai tendance à vouloir trop, en fait, expliquer mon sujet de thèse dans chacun de mes articles. Et bah, finalement, c'est compréhensible parce que vu que j'avais pas quelque chose de clair et que j'avais juste envie de dire plein de trucs sur ce que j'ai compris de la confiance, et bah, ça faisait des intros très théoriques, très larges et très complexes pour rien, finalement, parce qu'un article scientifique, ça doit être globalement une idée, une question, une réponse. Et normalement, avant de donner l'idée, la question, eh ben, on met en place une introduction théorique dans laquelle on explique un peu dans quel champ on se pose, on se place, etc., comment on définit les choses pour que les choses soient claires. Mais moi, je voulais vraiment, en fait, je voulais faire ma thèse dans chacun de mes articles, ce qui posait un problème. Et donc là, quand je relis mon introduction, j'ai bien vu que, ah oui, là, je suis en train d'expliquer cette sous-théorie alors que je ne l'utilise pas, donc on s'en fout. Là, j'explique la définition, voire les limites de la définition de la confiance, alors que je dois le faire après ou dans un autre article. C'est voilà, ça fait du bien de reprendre, enfin moi, d'avoir un peu craché tout ce que j'avais en tête sur la confiance pour revenir très précisément sur cet article, qu'est-ce qu'il défend et qu'est-ce que je dois faire. Donc, réécrire l'introduction. Ensuite, réécrire la méthode, même si ma méthode, elle est assez bonne, parce que ce qui est bien, c'est qu'une méthode, ça bouge pas forcément avec le temps. On répond à des critères, voilà, on sait que dans tel type d'article, il faut expliquer les choses de telle manière, etc. Surtout dans des projets un petit peu d'analyse qualitative, où on suit une méthodologie qu'on appelle systématique, les méthodes se ressemblent. Donc ça, j'ai pas grand-chose à toucher. Ensuite, il faut que je réécrive les résultats. Donc là où j'ai un petit peu les boules, c'est que j'ai écrit 80% des résultats pour les articles inclus en mai. Le problème, c'est que j'ai mis du temps et maintenant je vais réinclure des articles. Donc, ma structure de résultats va être la même. Je vais défendre les mêmes idées parce que là, j'ai vu, au pire, je vais rajouter trois articles. Ça va pas changer mes moyennes, ça va pas changer mes tendances. En revanche, ça va changer toutes mes statistiques. C'est-à-dire que si je disais que 17% des articles viennent de la médecine et que là, j'en rajoute, eh ben, ça se trouve, ce sera 19%. Donc, la structure va changer, mais toutes les stats vont devoir bouger. C'est pas compliqué, mais voilà à quoi ça va ressembler. Il y a une partie de résultats que j'ai pas rédigé. Et ensuite, il y a une grande partie qui est la discussion et qui est, bah, je vous ai expliqué à peu près dans quel concept et dans quelle théorie on se place. Donc ça, c'est l'introduction. Je vous ai justifié un petit peu en quoi c'est intéressant qu'on se pose une certaine question et quelle est la question que je me pose. Ça, c'est la fin de l'introduction. Ensuite, la méthodologie, voilà comment on s'y est pris. Les résultats, bah, voilà ce qu'on a obtenu. Et la discussion, en quoi ce qu'on a obtenu répond à notre question. Et qu'est-ce que ça veut dire sur bah, c'est quoi la réponse, comment on peut conclure, résumer la réponse. Et aussi comment on peut faire la part des choses entre ce qu'on vient de voir là dans notre méthode et dans notre article et bah, ce qu'on sait déjà dans la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire de la confiance? Qu'est-ce que ce qu'on vient de montrer apporte à la littérature? Vous avez voilà à peu près la structure générale d'un article scientifique et du mien précisément. Et du coup, moi, il va y avoir un travail de discussion. Il faut savoir que la discussion, c'est un peu qui tout double, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, il y a des gens qui aiment bien. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est le moment où je peux faire mon geek de la littérature. Généralement, mes discussions sont assez bonnes. Moi, je suis assez mauvais en introduction, sûrement parce que je fais de la discussion dans l'introduction, c'est-à-dire que j'ai trop envie de discuter, de parler de résultats, de lever des critiques, de donner trop de définitions. Et du coup, je perds le lecteur et ça devient pas assez clair. Donc voilà, les chercheurs finissent par savoir en quoi ils sont bons et pas bons. Et normalement, la discussion, moi, ça va plutôt bien parce que je suis enfin un peu plus libre de faire des liens théoriques que j'ai souvent avant de faire l'étude. Donc, je présuppose un peu de mes résultats. C'est ce qu'on appelle avoir des hypothèses. Mais donc, là, il faut que je la rédige, j'allais dire quasiment totalement la discussion, mais J'ai fait quelque chose que ma direction de thèse m'a conseillé de faire et que je peux vous conseiller de faire si vous faites une thèse, c'est d'écrire souvent vos idées, même des articulations de paragraphes et d'argumentation, parce que moi, je le fais depuis longtemps, donc j'ai pas d'article soumis sur la confiance, enfin, j'ai pas d'article publié sur la confiance. Par contre, à force d'écrire des trucs, j'ai plein de petits bouts, de plein de petites réflexions partout. Ce qui fait que j'ai pas de syndrome de la page blanche sur la confiance parce que j'ai quasiment défendu chaque idée dans plein de petits débuts d'articles, dans des dossiers et puis dans des moments où je me suis dit, oh là, je viens de lire beaucoup de trucs sur un sujet et bah vas-y, j'écris 2 pages sur ce que j'ai compris dessus. Franchement, faire ça, ça enlève un énorme poids dans l'écriture. Et donc, la discussion n'est pas écrite sur mon document Word qui s'appelle Scoping Review, cet article-là que je vais défendre. En revanche, je sais que je sais déjà ce que je vais dire parce que ça fait des années que je vois les résultats avancer et là, je vais rajouter 3-4 articles sur 45. Donc, les statistiques ne vont pas changer. Hein. Ce n'est pas en 3-4 articles que les tendances vont changer. En revanche, je serai plus précis et plus complet. Donc, voilà, ce sera une étude qui sera actualisée sur 2025. Mais au moins dans la discussion, je vais pouvoir développer ce que je voulais dire sur la critique potentielle de la littérature sur la confiance, aussi de la littérature sur la mesure de la confiance. Et ça, je sais déjà ce que je vais dire, mais c'est quand même une partie qui demande un effort intellectuel le plus soutenu de mon point de vue. L'introduction aussi quand même, parce que en plus moi je suis moins bon dans l'introduction, donc moi ce qui me fatigue le plus c'est l'intro, parce qu'il faut bien amener les choses, il faut amener les bonnes questions de la bonne manière, donner les bonnes infos pour que les gens suivent notre lecture et que ce soit compréhensible vite. Mais la méthode, généralement, on répond à des critères, on répond à une manière de présenter qui existe un peu partout, donc on peut s'inspirer n'importe où. Les résultats, d'autant plus. Chaque statistique a un type de présentation, parce que pour faire telle statistique, il faut montrer les choses de telle manière, les tableaux sont les mêmes, etc. Donc c'est pas compliqué. En revanche, la discussion, c'est un peu plus libre à notre question spécifique, notre originalité. Et donc là, il faut orienter, argumenter, et puis il faut avoir la présence d'esprit, la culture scientifique et l'intelligence de faire les bons liens et de montrer en quoi nos résultats sont pertinents. Et donc ça demande un peu plus de jus de cerveau. Moi, c'est ce que j'aime, hein, donc c'est pas grave. Hein. C'est pour ça que je fais de la science. Hein. C'est un peu pour faire mon geek de littérature à la fin, essayer de dire, mais voilà, peut-être que l'humanité, elle est comme ça, peut-être que, enfin voilà, pouvoir critiquer, c'est ce que je trouve est intéressant dans un article. Voilà, ça, il faut que je le fasse. Donc, pour résumer, finaliser les données, revoir l'introduction, mettre à jour les résultats et écrire la discussion. C'est ce que j'ai prévu de faire ces 10 prochains jours à fond, parce que j'ai un peu plus de temps devant moi. Ouais, à peu près 10 jours, un peu plus. Et ensuite, donc ça me mènera jusqu'à mi-avril. Et ensuite, jusqu'à fin avril, je vais quasiment être en déplacement, en vacances. Voilà, j'aurai la chance. Ou en mission, où je serai globalement occupé. Donc voilà, finalement, ça a été un podcast sur lequel je vous ai expliqué où j'en étais sur ma scoping review et ce qui va se passer ces prochaines semaines. Écoutez, c'est là où mon cerveau m'a mené. J'aurais pu vous dire d'autres choses, par exemple comment je mène des focus group et des entretiens, mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine fois, parce que j'ai pu rentrer sans le vouloir dans la logique d'un épisode, un sujet. Je vais vous laisser sur ça pour cette semaine. J'espère que ça vous a été peut-être pas utile, mais au moins que ça a suscité votre curiosité sur un peu plus à quoi peut ressembler un article scientifique et une scoping review et ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, juste avant de quitter, je suis en train de me dire que tant que je suis dans le champ de la scoping review, je vais peut-être expliquer la différence entre scoping review et méta-analyse pour les chercheurs et les étudiants qui me demandent. Je vais me lancer dans ça, voilà, désolé. Ce n'est pas une fin d'épisode, merci d'être resté. J'ai échangé avec des doctorants, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, donc ça tombe bien, c'est un petit peu un propos récent, sur la différence entre les méta-analyses, les analyses critiques de la littérature, les revues systématiques qu'on appelle. Donc ça c'est le deuxième. Et les scoping reviews. Donc voilà, désolé pour ceux qui ne sont pas dans la recherche, mais C'est des questions qu'on peut se poser sur les différences de type d'articles. Et on a échangé parce que justement, il y en avait une qui, il y avait une personne qui faisait une méta-analyse, une qui faisait une revue systématique et moi qui fais une scoping review. On a essayé de comprendre les différences, etc. Alors, la méta-analyse, c'est une analyse de la réponse générale d'une question dans la littérature. Pour ceux qui s'y connaissent et pour les chercheurs aguerris, je n'ai pas de notes du tout. Et je sors de tête une discussion qu'on a eue. Donc mes excuses, ça va peut-être manquer de précision, mais je vais essayer de transmettre ce que j'ai compris concernant les différences. Une méta-analyse, c'est essayer de répondre à la question en quoi A est lié à B ou en quoi A cause B, la relation entre des variables sur un sujet. Moi, si je le fais sur mon sujet, ça peut être en quoi la confiance entre les personnes est modifiée par l'âge. Donc, avec une hypothèse potentiellement que, allez, je ne sais pas, plus on est vieux, moins on fait confiance aux gens de manière générale, et plus on est jeune, plus on est naïf, et plus on fait confiance aux gens. Alors, ce que je peux faire dans un article normal, c'est aller trouver une mesure de la confiance des gens en général. Le faire passer à des gens tout venant. Donc, quand on dit tout venant, c'est un peu n'importe qui veut bien répondre aux commentaires. Je leur demande aussi leur âge et je fais une statistique, je fais une corrélation entre l'âge et la confiance que les gens ont envers les autres en général. Et je montre, voilà, les gens ont plus ou moins confiance. Et donc, ça, ce serait un article normal. Si je veux faire une méta-analyse, je vais prendre tous les articles comme. Ceux qui ressemblent à la première version que j'ai faite, donc un qui va tester des fois la confiance envers les médecins, mais qui a aussi mesuré l'âge des personnes, la confiance envers les postiers, mais qui a aussi mesuré l'âge des personnes. Et voilà, donc ceux qui ont déjà traité ou eu des données qui permettent de répondre à la question quel est le lien entre l'âge et la confiance qu'on fait envers les gens en général. Et dans mes méta-analyses, je vais essayer de trouver des termes de recherche qui me permettent d'avoir tous les articles qui ont mesuré l'âge et la confiance envers les gens en général, de trouver des critères de sélection quand même pour ne pas traiter 10 000 articles, et de tester, j'allais dire concaténer, mais c'est un terme très Excel, de prendre toutes les données et tous les résultats associés à ce lien-là, et d'essayer de faire une moyenne générale du lien entre la confiance et l'âge. Donc, quand on fait une méta-analyse, c'est un petit peu l'article qui permet de faire le point sur le consensus sur un sujet. Donc là, moi, je parle d'une corrélation, mais ça peut être, voilà, c'est plutôt une question liée à une statistique entre des variables. Et on essaye de faire le point sur bah, qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que disent les articles scientifiques sur cette question précise. Moi, ce que je souhaite faire dans la scoping review, c'est pas faire un consensus sur une question du lien entre des variables. La scoping review, c'est limite un travail préliminaire à une méta-analyse et c'est ce qui permet de mettre à plat, planifier. Enfin, mettre à plat, j'aime bien le verbe to plan en anglais dans le sens mapper. Voilà, faire un plan de la littérature sur un sujet. Donc là, je veux pas savoir si la confiance est liée à je sais pas quoi et que tout le monde est d'accord dans la science. Je veux juste me dire, quand on cherche une mesure de la confiance, à quoi la littérature ressemble, comment elle peut s'organiser, comment on peut la comprendre. La scoping review sert à ça. Elle sert à, d'une manière systématique, c'est-à-dire en essayant d'avoir le plus d'articles possible, définir notre champ de littérature et puis quels sont les thèmes, quels sont les sujets qui reviennent et quelles peuvent être les critiques. Là où, dans la revue systématique, on va faire une analyse critique d'articles sur un sujet, mais sans avoir une statistique précise en tête. Donc, on va dire que dans l'analyse systématique, une revue systématique, on va un peu plus être entre la scoping review et la méta-analyse. La scoping review étant plus faite pour mettre à plat, faire comprendre aux chercheurs comment s'organise la littérature sur un sujet. La revue systématique un peu plus pour critiquer des articles ou un champ de littérature. Et la méta-analyse pour synthétiser les résultats sur une question de recherche. Voilà comment je pourrais expliquer ces trois sujets qui sont des questions qu'on se pose quand on se lance dans un doctorat, en tout cas. Enfin, ça a été mon cas et puis j'ai vu que c'était le cas pour des collègues. J'espère que ça n'a pas été trop barbant pour les non-chercheurs, mais voilà, vu qu'on était dedans et que je me le suis remis en tête il n'y a pas longtemps, eh ben, je vous le retransmets. Je ne suis pas encore extrêmement clair sur tout, donc ça se trouve, il y aura des petites erreurs, mais c'est ce que j'ai compris là où j'en suis. Et voilà pour le petit ajout théorique, comment on aura fait le tour ce sujet de la scoping review. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un lundi pour un nouvel épisode de Bip Bip.